Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand a les yeux sur les chiffres de podcast. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est agréable de regarder ces chiffres puisque pour le 17e mois consécutif, notre station est leader avec 6,5 millions de téléchargements. Et pour tout vous dire, et ça, ça fait encore plaisir. C'est que nous sommes très bien classés dans cette série. Nous sommes en bonne compagnie avec Nicolas Canteloup et Laurent Ruquier. Merci à tous de votre fidélité. Alors que vous nous écoutiez, je ne sais pas, en faisant votre footing ou en prenant votre bain. En tout cas, faites attention si vous prenez votre bain. En tout cas, c'est très agréable de savoir que vous êtes toujours plus nombreux. Merci.
Exactement. Revenons à l'émission du jour. Il y a eu 70 ans, le 27 mai dernier, c'était tenu dans la clandestinité sous la présidence de Jean Moulin, envoyé du général de Gaulle. La première réunion du Conseil national de la Résistance, c'était dans un appartement du 48 rue du Four à Saint-Germain-des-Prés. Et Franck Ferrand nous parle donc aujourd'hui de la Résistance.
Bonjour Julia. Donc, 70e anniversaire. Un 70e anniversaire qui a été dignement célébré. On a vu paraître toute une floraison d'ouvrages sur la résistance française. C'est elle qui va nous occuper aujourd'hui. Il est évident qu'il y a eu par ailleurs des mouvements de résistance dans tous les pays occupés. J'ai retenu deux de ces ouvrages pour leur clarté et leur brio. Celui de Dominique Lormier et celui d'Olivier Vieviorca qui sont nos invités cet après-midi.
Vous allez aussi nous raconter un moment fort de cette guerre de l'ombre.
Eh oui, nous revivrons les négociations préalables à la fondation du Conseil national de la Résistance à travers le témoignage du secrétaire de Jean Moulin, vous savez, Daniel Cordier, que nous avons eu l'honneur de recevoir dans ce studio il y a quelques mois et qui a raconté tout ce qu'il a pu voir. Il était, si je puis dire, aux premières loges. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une vision globale de la Résistance. Nous avons 50 minutes pour le faire. C'est un peu un défi. Je pense que nous allons tout faire pour le relever.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il serait bien étonnant que je sois un cas à part. Depuis toujours, ces gens-là sont mes héros. À l'école, puis au collège, j'étais fasciné, ébloui du parcours de ces Français souvent inconnus, qui très tôt pour certains, plus tard pour d'autres, ont fait le choix, lors de la dernière guerre, de refuser l'ordre des choses et de résister, par patriotisme souvent, par conviction politique parfois, ou de temps en temps pour des motifs plus personnels ou spécifiques. Je dis, on fait le choix comme si c'était facile. Vous savez, après les faits, tout paraît si évident, mais sur le coup, quand vous êtes englué dans les réalités de l'heure, il faut beaucoup de lucidité, de courage pour prendre ce genre de décision. Lorsque j'interviewais dans une autre vie d'anciens résistants et d'anciennes résistantes, il m'est arrivé de leur dire tout ça. Et plusieurs fois, je me suis attiré cette réponse « Oh, vous savez, ça s'est fait tout seul » ou « Je ne me suis même pas posé la question ». Admettons, mais tout de même, résister, s'opposer à l'occupation de la France, prendre le risque permanent d'être arrêté, torturé, déporté ou même fusillé, donc se sacrifier pour la cause du pays, de sa souveraineté, à tout le moins pour sa liberté, c'était une très grande, une extraordinaire aventure. Bien sûr, par la suite, j'ai appris que la situation était souvent complexe. En tant que spécialiste d'histoire orale, j'étais amené à porter sur les multiples réalités recouvertes par ce terme de résistance un regard plus nuancé, parfois même critique. Mais jamais, pas un instant, je n'ai pu me déprendre d'un fond d'admiration et de gratitude. Peut-être d'une forme d'envie aussi, disons-le. En tout cas, pour certains aspects les plus exaltants du parcours des résistants, car l'angoisse, la méfiance, la clandestinité n'ont évidemment pas grand-chose d'enviable. La résistance, dans les années 60, au temps du gaullisme triomphant, s'est parée de tout un pathos, de tout un décorum, parfois un peu grandiloquent, et qui a eu pour effet, je l'ai souvent constaté, de détourner les plus jeunes de cette fantastique histoire. Erreur, car ce que recouvre le terme, ce que dissimulent les cérémonies plus ou moins maladroites, ce qu'occulte peut-être la violence du souvenir, ce sont autant d'actions grandes et petites, inspirées par ce qu'il peut y avoir de grand dans l'homme. C'est un peu comme ces belles histoires d'amour, vous savez, dont la postérité et souffrent des traces désincarnées qu'elles ont pu laisser, des photos jaunies, des fleurs séchées. Il faut être capable de passer outre et de réaliser qu'un jour, les fleurs ont été vivantes et les jeunes gens compassés de la photo des amants éperdus, comme dans la chanson de Trainée, il suffit d'un peu d'imagination. Imaginez la résistance, ou plutôt nous la donner à voir à travers les documents les plus fiables, les analyses les plus fines, c'est le travail accompli par Olivier Wieworka et dans sa superbe histoire de la résistance chez Perrin. Je suis heureux qu'il puisse être des nôtres aujourd'hui, de même que Dominique Lormier, membre de l'Institut Jean Moulin et qui publie au Cherche Midi « Histoires extraordinaires de la résistance française ». Ce que l'un et l'autre ont à nous raconter n'est pas très évident. Ils parlent de personnes souvent obscures, camouflées derrière un ou deux pseudonymes, qui sont entrées en résistance pour mille raisons diverses, à des périodes, dans des circonstances souvent différentes, à travers des réseaux et des mouvements changeants, évolutifs, issus eux-mêmes des aspirations parfois contradictoires de dirigeants plus ou moins ballottés par les événements. Non, l'histoire de la résistance française n'est pas simple. Elle offre même à l'étude un des champs les plus complexes qui puissent exister. Mais une chose est simple et sûre. Une chose est très claire, c'est que les hommes et les femmes dont nous allons parler aujourd'hui ont tous, d'une manière ou d'une autre, agi avec courage, générosité et amour de la liberté.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
Alain Barly sur Europe 1 avec la complainte du partisan. Juste après une petite pause, nous parlons de la résistance sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Olivier Wieworka, professeur des universités à l'école normale supérieure de Cachan, spécialiste de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale, et Dominique Lormier, historien, écrivain, membre de l'Institut Jean Moulin.
Bonjour messieurs, merci d'essayer d'éclairer notre lanterne sur ce grand, sur cet immense sujet de la résistance. Ce qu'il faut peut-être commencer par dire et par expliquer, Olivier Wieworka, c'est que cette résistance n'est pas un phénomène institutionnel, décrété. C'est un phénomène émergent, au départ spontané.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'une part, il faut rappeler que à la suite de cette épouvantable défaite de 1940, les partis, les syndicats sont littéralement anéantis. L'armée est disloquée et ne pense pas à résister, même si vous avez du camouflage de matériel qui s'opère dès 1940. Et par ailleurs, autre élément, la résistance, contrairement à ce qu'on affirme bien souvent, ne naît pas de Londres, elle ne naît pas de l'appel du 18 juin. De Gaulle pense construire la lutte de Grande-Bretagne, donc il demande aux officiers, aux hommes de troupes, aux industries de l'armement, aux ingénieurs de l'armement, de le rejoindre, mais il n'imagine pas construire une forme de guérilla, de levée en masse en 1940.
Non seulement il ne l'imagine pas, mais il y est longtemps hostile, disons-le. C'est-à-dire que dans un premier temps, il regarde en fronçant les sourcils ce qu'on lui rapporte de tous ces mouvements spontanés, précisément.
Alors, effectivement, il n'est pas hostile, le terme serait peut-être un peu fort, mais en tous les cas, il est très réservé,
oui, voilà.
Parce que pour lui, ce qui compte, c'est d'abord et avant tout participer à la guerre. Donc il a besoin d'une armée. Et dans cette armée, vous avez la lumière, les forces françaises libres, et puis vous avez l'ombre. Et l'ombre, ce sont les réseaux de renseignement que les services secrets du général de Gaulle, le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action du colonel Passy, vont implanter en France métropolitaine. Alors, c'est quoi la fonction d'un réseau? C'est de collecter du renseignement, c'est éventuellement de faire des sabotages, c'est d'aider à l'exfiltration des soldats ou des aviateurs tombés en 1940 et par la suite, mais il ne s'agit pas du tout d'organiser ce que l'on pourrait appeler les masses, les Français, dans une structure d'opposition à Vichy d'une part, ou contre l'Allemagne, d'autre part.
Alors il y a ces réseaux très actifs qui vont peu à peu s'agréger, se constituer, on pourrait presque dire par percolation. Les gens se rencontrent, se retrouvent, créent des réseaux. Certains, par la nature même de leur caractère ou de leurs compétences, vont émerger et prendre la tête de ces différents réseaux. On va voir jusqu'où tout ça va mener, parce que peu à peu se construit une véritable organisation. Et il y a aussi les mouvements qui, eux, sont plus politiques, qui ont une dimension, on va dire, d'intervention
plus de propagande, moins opérationnelle peut-être,
oui,
moins militaire en tout cas.
Ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que les réseaux se situent dans une logique de guerre. Donc l'objectif, c'est d'aider les alliés, via la France libre ou via les services britanniques, à gagner la guerre. Les mouvements, eux, bien entendu, rêvent que les Allemands soient boutés hors de France, mais je ne dirais pas que c'est leur objectif premier. Tout simplement parce qu'ils ne pensent pas, ou ils ont du mal à imaginer, ou c'est difficile à construire, ils n'imaginent pas la manière dont on peut lutter militairement contre les Allemands. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est d'agir sur les Français, sur les gens. Alors comment on peut agir ? Eh bien, il faut peut-être d'abord les informer pour les convaincre, et puis ensuite peut-être les mobiliser pour le jour où le débarquement se produira.
Olivier Vieorca parlait donc de lumière et d'ombre, Dominique Lormier, c'est-à-dire ceux qui, évidemment, sous la botte nazie pendant l'occupation, vont s'organiser à l'intérieur, et puis ceux qui, à l'extérieur, autour du général de Gaulle, notamment, puisqu'il y a eu un certain nombre de ces... Enfin, essentiellement autour du général de Gaulle, vont développer une résistance extérieure. Il faut bien faire la distinction entre les
Absolument.
Deux.
Absolument. Alors, nous avons d'un côté donc cette résistance intérieure à travers les mouvements et les réseaux, et ensuite cette résistance extérieure avec la création des forces françaises libres derrière le général de Gaulle et qui vont s'articuler autour des FFL, donc des forces terrestres qui vont notamment se distinguer durant la bataille de Bir Hakeim, mais également les forces aériennes françaises libres où vous aurez un certain nombre de personnalités qui vont s'engager dans les FAFL. Je pense notamment à Pierre Mendès France. Et ensuite, les forces navales françaises libres qui seront extrêmement réduites puisque la majorité de la royale de la flotte française restera fidèle à Vichy jusqu'en 1942. Néanmoins, elles permettent de donner un certain rayonnement de l'action militaire du général de Gaulle parce qu'elles prendront part à des actions qui seront d'ailleurs remarquées par les alliés, mais également même par le général Rommel, notamment à Bir Hakeim.
Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur la résistance intérieure. Et j'aimerais évidemment souligner tout de suite la très grande diversité d'appartenance politique, la très grande diversité des opinions de ceux qui résistent. Hein. Ça va de la droite à la gauche, je pourrais même dire de l'extrême droite à l'extrême gauche en vérité.
Tout à fait. Bah, lorsqu'on voit notamment l'itinéraire de Néel Cordier qui était un jeune camelot du roi de l'Action française, quand on voit par exemple quelqu'un, une personnalité comme Georges Guingouin qui est un militant du Parti communiste, il y a également des militants socialistes du Nord également qui vont créer La Voix du Nord, qui sera un journal clandestin. Donc on retrouve véritablement, je dirais, tous les itinéraires politiques de la Troisième République qui sont représentés au sein de la résistance, mais également, on retrouve également les mêmes itinéraires politiques, également la même diversification à travers les mouvements de la collaboration.
Alors, comment à partir de tous ces mouvements désordonnés va se créer un peu d'ordre ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec... entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades !
Germaine Sablon sur Europe 1 avec le chant des partisans, Franck.
C'est une version d'époque et à laquelle on est moins habitué évidemment qu'à celle d'Yves Montand que nous avons l'habitude d'entendre sur cette antenne. Alors, il y a une personne qu'il faut évoquer tout de suite et qui, lorsqu'on parle d'unification, d'organisation en tout cas, de mise en ordre s'impose, c'est évidemment Jean Moulin, le Rex de la Résistance, personnage essentiel dans cette organisation, Olivier Vieorca.
Oui, tout à fait. Jean Moulin va jouer un rôle tout à fait important dans l'unification de la Résistance. Alors, on peut rappeler que Jean Moulin est un ancien préfet. C'est un préfet qui est plutôt de gauche, qui a été très proche de Pierre Cotte,
oui, ministre de l'air, hein, oui, du Front populaire.
Absolument. Et donc, lui est révoqué par Vichy et il décide de rejoindre le général de Gaulle. Mais avant de rejoindre le général de Gaulle, il se propose de faire un rapport sur ce qui se passe en France. Donc, il réfléchit, il rencontre beaucoup de gens. Et lorsqu'il arrive à Londres en octobre 1941, eh bien, il est en mesure de dire au général de Gaulle « Mon général, il se passe un certain nombre de choses, notamment en zone sud.
Il a fait une très vaste enquête, en fait. Il sait exactement tout ce qui... Enfin, pas tout, mais il connaît l'essentiel de, des différents mouvements et réseaux qui se sont créés.
Voilà. Et ce qu'il est en mesure de dire au général de Gaulle, c'est, écoutez, vous avez bien sûr les réseaux, c'est important, ils collectent du renseignement, ils jouent un rôle, mais vous avez autre chose. Et cette autre chose, ce sont les mouvements de résistance qui sont importants parce qu'ils agissent sur l'opinion publique, ils peuvent élargir votre légitimité. On peut se rappeler quand même que le général de Gaulle est, en 1940-1941, un homme seul. Donc ils peuvent jouer un rôle et vous devriez vous occuper un petit peu de ces mouvements. Et il emporte effectivement la conviction du général de Gaulle. Et en janvier 1942, Jean Moulin est parachuté en zone sud avec pour mission essentielle d'unifier la résistance de zone sud. Unification qui va prendre la forme d'une part d'un comité de coordination qu'il préside et ensuite d'une fédération des trois grands mouvements. En 1943, les trois grands mouvements, ce sont Franc-Tireur, Combat et Libération Sud. Et ces trois mouvements vont se fédérer au sein de ce qu'on appelle les murs, les mouvements unis de résistance. Se fédérer, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils constituent des services communs tout en gardant leurs journaux, qui est un petit peu leur identité propre.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir se constituer toutes ces organisations avec ces noms, avec ces sigles, etc. On a l'impression quasiment que tout ça a été décrété. Or, encore une fois, ça naît peu à peu et au fil et au gré des circonstances. Il faut bien souligner cet aspect. Je pense que l'histoire de la résistance souffre de ce qu'on appelle la téléologie en histoire. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir tout ça vu après coup. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte et dans l'incertitude extrême du moment et dans le caractère parfois un peu hésitant, un peu tâtonnant des choses.
C'était en plus un contexte qui était extrêmement difficile du fait de la présence des Allemands et notamment de la Gestapo, mais également conflictuel entre les différents mouvements, parce qu'il y a eu énormément de rivalités. On sait que Jean Moulin a eu énormément de problèmes pour unifier la résistance derrière lui en zone sud. Et ça a été le cas également aussi de Pierre Brossolette en zone nord, où il y avait même d'ailleurs une concurrence entre Pierre Brossolette et Jean Moulin. Les relations n'étaient pas toujours faciles entre les deux hommes. Et il y avait également au sein même des différents mouvements, que ce soit le mouvement de Freinet au sein du mouvement Combat ou les mouvements Libération ou Franc-Tireur, des rivalités qui existaient entre les différents chefs de ces mouvements.
Alors, on va revenir justement sur cette rivalité entre Pierre Brossolette et Jean Moulin dans un instant, à travers le témoignage de Daniel Cordier. Ce qu'il faut peut-être, une fois pour toutes, régler, c'est cette question de zone nord, zone sud. Il ne faut pas oublier que la France est coupée en deux, hein, entre la partie, la zone occupée et la zone dite libre, jusqu'en novembre 42 en tout cas. Est-ce que l'organisation des mouvements de résistance est sensiblement différente dans les deux zones?
Alors on a quand même vu au début qu'il y avait une tendance, notamment en zone sud, surtout d'attaquer les Allemands et d'essayer de ménager le maréchal Pétain. Ce n'est pas le cas de tous les mouvements, mais notamment au sein du mouvement de Freinet. C'est-à-dire on considérait qu'il y avait d'un côté des maréchalistes et de l'autre côté véritablement les Allemands et les affreux collaborateurs qui étaient à Paris. Et néanmoins, en zone nord, on a eu une résistance nettement plus politique dès le début, avec des syndicats et également des anciens partis qui essayent de se restructurer clandestinement et qui ne ménagent pas du tout le régime de Vichy non plus.
Il est donc question, début 1943, d'organiser tout ça, de créer un Conseil national de la résistance. À qui le général de Gaulle confie-t-il cette mission d'importance absolument capitale? Évidemment à Jean Moulin. Et vous allez voir dans le récit qui suit que Jean Moulin a eu fort à faire et que le moins qu'on puisse dire est que ce Conseil national de la résistance, ce CNR, n'est pas né dans la facilité.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur la naissance du Conseil national de la résistance.
N'omettez pas, me conseille Philippe, l'excellente mini-série diffusée sur France 3 le mois dernier sur le courage de Daniel Cordier, que nous avions donc reçu. Eh bien, c'est justement le témoignage de Daniel Cordier que j'aimais mettre en avant maintenant. Daniel Cordier, il y a quelque temps, avait publié chez Gallimard alias Caracalla, Caracalla étant son pseudonyme dans la résistance, son nom de code. Et il raconte, évidemment, au jour le jour, son travail auprès de Jean Moulin, Rex, dans la résistance. Et on peut dire que la difficulté pour Jean Moulin d'essayer de mettre tout le monde d'accord, on peut dire que sa très grande et très longue confrontation avec Pierre Brossolette a atteint un sommet au mois d'avril 1943. Et voilà ce que raconte Daniel Cordier pour la journée du jeudi 1er avril 1943. Dans la suite de la matinée, dit-il, je retrouve Germain, peu importe, qui établit peu à peu les liaisons avec les services et les secrétariats des mouvements. Mon esprit est ailleurs. Je suis préoccupé par le nouveau rendez-vous entre Rex, donc Rex, c'est-à-dire Jean Moulin, Passy, le colonel Passy, André de Vavrin, et Brumaire, qui donc est Pierre Brossolette. Ils ont réclamé une confrontation au sujet d'un rapport qui vient d'être publié et des critiques à l'égard de Jean Moulin. À midi, nous dit Jean Cordier, j'arrive au rendez-vous fixé au pied de l'Arc de Triomphe côté avenue Kléber. Champion attend déjà. Nous commençons à échanger nos rendez-vous lorsque Morlaix nous rejoint à grands pas. Il rayonne. Rex a mangé du lion, donc Rex, hein, c'est bien Jean Moulin. Il les a piétinés, dit-il. Passy était livide et Brumaire, Brossolette, pleurait de rage. Passy a perdu de sa superbe. Il a compris que le titre de commissaire national que Rex leur a jeté au visage était une menace pour son poste. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Jean Moulin, je vais dire Jean Moulin, ce sera peut-être plus simple, a dit à Passy en le regardant dans les yeux « Vous étiez avec moi lorsque le général a signé les instructions. Ce sont des ordres. C'est vous le chef de mission. Vous aviez le devoir de les appliquer et de les faire appliquer par Brumaire, donc par Brossolette, qui est votre subordonné. » Brossolette, nous dit Daniel Cordier, a essayé de convaincre Jean Moulin que le Conseil de la Résistance est une erreur qui ruinera les chances de redressement politique de la France après la Libération. Et ça, c'est un des aspects les plus essentiels et qui permettent de mieux comprendre là aussi tous les allers-retours, tous les aléas de ces combats menés par différents réseaux, c'est que précisément, on prépare l'après-guerre, on prépare la libération, et c'est peut-être cette perspective politique qui a tendance à inspirer chacun. Et alors là, Jean Moulin est extrêmement brutal, voilà ce qu'il répond à Pierre Brossolette, c'est du journalisme de pacotille. Brossolette s'est rebiffé, nous dit Cordier, clamant que sa conception était prophétique et non de la routine de fonctionnaire. Ça, c'est pour l'ancien préfet. « Taisez-vous, lui a ordonné Moulin, vous êtes ici pour exécuter les ordres du général et non pour discutailler et organiser des embuscades contre son représentant. En tout cas, je ne vous laisserai pas pourrir la situation, j'ai demandé votre rappel à Londres, en attendant, croyez que je veillerai à ce que vous exécutiez mes ordres. » Et Morlaix, qui donc raconte à Daniel Cordier ce qui s'est passé le matin même, ajoute « Je les ai quittés suintant de haine. S'ils avaient pu tuer Moulin, ils l'auraient fait. Malgré tout, il est resté maître du terrain. » Et puis Morlaix ajoute après un silence « Je n'ai jamais vu Jean Moulin dans un tel état. À un moment, il a crié en se tapant sur les fesses « Voilà ce que j'en fais de votre politique. Je n'en revenais pas. Un homme que j'ai toujours connu si maître de lui. »
Gerbier sur Europe, un extrait de la bande originale du film L'Armée des Ombres, réalisé par Jean-Pierre Melville.
Alors Daniel Cordier nous raconte que Jean Moulin l'a rejoint, il arrivait, on se trouve place des Ternes, il arrivait par l'avenue des Ternes justement, et voilà ce qu'il dit à son secrétaire, « Oh, ça s'est mal passé, il ne changera jamais », donc il, en l'occurrence on parle bien de Brossolette, « brillant, arrogant, mais incapable de comprendre une situation et de traduire ses idées en actes ». Après quoi, nous dit Cordier, Jean Moulin l'a regardé sévèrement, « J'ai eu tort de vous écouter, j'aurais dû expédier ma lettre, c'est-à-dire ces instructions sans avoir à discuter directement avec Brossolette et avec le colonel Passy. » Reprenant son calme et baissant la voix, nous dit Daniel Cordier, Jean Moulin ajoute « Pour eux, la politesse est un aveu de faiblesse. Ils ne respectent que la force. Il faut cogner pour les faire obéir. Ne l'oubliez jamais, c'est une loi de la politique. Ah, vous êtes un tendre, vous croyez au sentiment, eh bien la vie vous sera cruelle. » Heureusement, dit Cordier, cette rebuffade que je ressens comme une gifle est noyée dans sa rancune à l'égard du chef du BCRA, mon chef, donc, où l'on revient à Passy, et de son acolyte qu'il évoque de nouveau envahi de colère tandis que nous redescendons l'avenue. J'ai l'impression que la violence de sa réaction lui sert de point d'appui pour entamer le prochain round. Et le prochain round, ça va être alors une discussion extrêmement serrée qui a lieu au restaurant et au cours de laquelle il faut que Jean Moulin s'impose et fasse respecter les ordres de Londres face à de hauts responsables de la résistance, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas du tout du tout conciliant, Dominique Lormier.
Tout à fait. Il faut se mettre à la place aussi des résistants de l'intérieur, puisqu'ils avaient créé leur propre réseau pratiquement seuls. Et d'un seul coup, ils voient arriver des gens venus d'Angleterre qui leur donnent des ordres sous la direction du général de Gaulle. Donc on peut comprendre également qu'il y ait pu avoir quelque de l'aigreur et justement de la jalousie et des rivalités. Il faut savoir que la résistance sur le terrain avait été très meurtrière pour justement cette résistance. Ils avaient eu énormément d'arrestations. Rien que durant l'année 1943, je crois qu'il y a eu 43 000 arrestations au sein de la résistance. Donc il y a eu vraiment des réseaux qui ont été totalement décimés, des réseaux qui avaient été formés pour certains dès 1940. Et donc ils avaient eu une certaine autonomie durant cette période-là.
Et d'un seul coup, il fallait obéir. Absolument,
ils acceptaient mal justement les ordres qui venaient de l'extérieur, et notamment des Britanniques ou de la France libre.
Le petit extrait des mémoires de Daniel Cordier que je viens de vous lire fait partie des témoignages réunis par Laurent Geoffrin dans un ouvrage intitulé « Les résistants, témoignages 1940-1945 » qui est publié chez Omnibus.
Avec jusqu'à 14h, une émission consacrée à la résistance. Si vous avez d'ailleurs des questions à nos spécialistes, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire.
Alors, en dépit de toutes les difficultés dont nous venons de parler, le 27 mai 1943 est donc créé ce Conseil National de la Résistance, dont on a célébré le 70e anniversaire il y a quelques jours. Ce Conseil National de la Résistance, Dominique Lormier, comprend toutes sortes d'organisations qui ne sont pas de même nature.
Absolument, ça pose un problème. Nous avons des représentants des syndicats, des représentants des partis politiques clandestins et des représentants également des différents mouvements, aussi bien de la zone nord que de la zone sud. Donc véritablement, ça fait énormément de monde et bien sûr avec des rivalités.
Avec des rivalités et des objectifs poursuivis qui, pour certains, sont d'ailleurs très différents. Quand je dis que ça fait beaucoup de monde, ça veut dire qu'il est également très difficile de le réunir, ce Conseil national, parce qu'il faut un minimum de combien, 15 ou 16 représentants à chaque fois?
Oui, tout à fait. Donc en fait, ce Conseil national de la Résistance ne va plus se réunir en assemblée plénière, d'autant que, on le sait, le 21 juin 1943, Jean Moulin va être arrêté à Caluire. Le problème, il faut peut-être le rappeler, de ce Conseil national de la Résistance, il est mal vu par un certain nombre de mouvements, tout simplement parce qu'il réintroduit des partis politiques, et en les réintroduisant, eh bien, il leur confère au fond un brevet de respectabilité. Et c'est bien ce que Brossolette refuse, alors que Moulin, au contraire, le souhaite. Et pourquoi Moulin et Charles de Gaulle souhaitent réintroduire les partis politiques dans la scène, au fond, c'est tout simplement parce que le général de Gaulle est à l'époque engagé dans une bataille de la légitimité contre le général Giraud. C'est le général Giraud qui est considéré comme l'interlocuteur
notamment par les
normal
Américains, oui.
Par les Américains et par les Britanniques, et que donc pour battre le général Giraud, il doit montrer le général de Gaulle qu'il a l'ensemble de la France derrière lui. Et qui incarne la France? La réponse, c'est d'abord les partis, secondairement les syndicats et très très secondairement les mouvements de résistance.
Et, oui. Et donc ces mouvements de résistance, il va falloir qu'ils avalent la couleuvre en quelque sorte et qu'ils servent de poids et d'éléments de légitimité pour un général de Gaulle qui a besoin de cette légitimité face aux alliés. Ça c'est fondamental, c'est l'aspect politique de ce CNR. Alors évidemment, peu à peu, ces mouvements de résistance tous coalisés, au moins en façade, vont grossir. On voit certains devenir d'un seul coup très importants à mesure que le temps passe et à mesure qu'on avance, qu'on s'approche d'un dénouement de ce conflit.
Oui, tout à fait. On peut dire que la résistance gagne en épaisseur. Alors la résistance gagne en épaisseur d'abord parce que les mouvements sont plus organisés, parce que également vous avez des mouvements ou des petits réseaux, des groupes qui s'agrègent au grand mouvement. Donc vous avez au fond un phénomène d'incorporation qui bénéficie aux grandes organisations. Et puis il y a un autre élément, c'est que la résistance est un phénomène minoritaire. Elle le reste d'ailleurs, je crois, jusqu'en 1944. Mais dans le même temps, vous avez de plus en plus de volontaires. Et dans cet afflux de volontaires, un élément important est provoqué par l'instauration du service du travail obligatoire. À partir du moment où, en septembre 1942, puis en février 1943, Vichy ordonne aux jeunes Français de partir travailler en Allemagne, vous avez un mouvement que nous pourrions qualifier de désobéissance civile. Alors, il ne faut pas l'exagérer, vous avez 650 000 Français qui sont partis outre-Rhin, ce qui est beaucoup. Ensuite, vous avez à peu près 250 à 300 000 personnes qui ont refusé de partir en Allemagne. Mais sur ces 250 à 300 000 personnes, tous ne sont pas devenus résistants. Une partie se cache.
Oui.
Voilà. Mais une autre, en gros 40-50 000 personnes, va rejoindre la résistance par les maquis notamment.
Alors, il faut expliquer ce que sont les maquis. Là, c'est un phénomène fondamental.
Alors, les maquis, c'est quoi? Eh bien, l'expression renvoie, bien entendu, à cette formation végétale corse. Hein. Donc, le maquis, c'est au fond une organisation militaire ou paramilitaire qui est en règle générale, mais pas toujours, dans les montagnes et qui sert à la fois de refuge aux personnes qui cherchent à fuir soit la police allemande, soit la police de Vichy, mais qui également, dans une certaine mesure, peut servir au fond de base opérationnelle pour mener une action de guérilla.
Ce que vous montrez, Olivier Vievorka, dans votre histoire de la résistance, c'est que les actions en question ne sont pas toujours d'une efficacité remarquable, au passage.
Non, parce que la résistance, si vous voulez, à partir de l'hiver 1943, va être confrontée à un afflux de volontaires. Donc ces volontaires, il faut les héberger, il faut les vêtir, il faut les nourrir. Et je ne parle même pas de les armer. Or, cette résistance, elle n'a pas d'argent et elle n'a pas d'armes. Alors elle va essayer dans une certaine mesure de métamorphoser ses volontaires en combattants, mais ces combattants, ce ne sont pas des professionnels de la guerre. Vous en avez parfois, c'est le cas par exemple dans le maquis de Glières, vous avez des Espagnols qui ont combattu pendant la guerre civile, donc qui ont une expérience du combat. À Glières également, vous avez une partie de l'armée, je pense par exemple à Tom Morel, qui est un Saint-Cyrien, qui a l'habitude de la guerre et qui est le chef de Glières. Donc certaines personnalités ont l'habitude du combat, mais la majorité ne l'a pas. Donc c'est très compliqué.
Alors justement, puisque vous parlez du plateau des Glières et des résistants issus des rangs des républicains espagnols, je réponds à Jean-Marc qui nous demande pourquoi nous faisons l'impasse sur les étrangers qui ont été les premiers résistants. La liste rouge, nous dit-il, les Juifs d'Allemagne, les Allemands communistes, les Espagnols républicains, etc. Eh bien, c'est pas que nous faisons l'impasse, c'est que l'émission a été conçue comme telle. Alors je le répète pour ceux qui nous rejoindraient et pour vous Jean-Marc, nous nous consacrons aujourd'hui essentiellement, et c'est déjà un très très vaste sujet, à la résistance française et dans cette résistance française, précisément à la résistance intérieure.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
Léo Ferré sur Europe 1 avec l'affiche rouge sur un texte de Louis Aragon. Notre émission sur la résistance fait réagir Franck.
Oui, beaucoup de réactions, on ne peut pas toutes les citer. J'en ai retenu deux par exemple. Vincent nous dit que son grand-père a sauté d'un train qui l'amenait justement, qui l'emmenait au STO, au service du travail obligatoire en Allemagne, et qu'il s'est réfugié dans un maquis des Pyrénées. Catherine nous dit que ces actes de résistance étaient extrêmement variés. Ça pouvait être le travail, par exemple, d'un passeur à un pont la nuit. Elle nous raconte comment son père, avec 2 ou 3 autres jeunes gens qui fuyaient un des chantiers de jeunesse, ont été sauvés comme ça par un passeur qui a été exécuté le lendemain, peut-être pour les avoir sauvés, etc. etc. Il faut peut-être dire juste un mot, puisqu'on vient d'entendre cette chanson de Léo Ferré sur l'affiche rouge, dire ce que c'est que cette affiche rouge, Olivier Vievorka.
Oui, donc vous aviez un groupe de résistants qu'on appelait la bande Amanoukian, et cette bande Amanoukian a été arrêtée. Et en 1944, en février 1944, vous avez eu donc une affiche rouge qui a été apposée sur de très nombreux murs de très nombreuses localités. Et en fait, cette affiche rouge, elle visait au fond à criminaliser la résistance en présentant la résistance comme une entreprise non française, non patriotique, menée par au fond des criminels qui, par surcroît, étaient communistes et juifs.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez cette idée de faire peur à un moment où, effectivement, la résistance, on l'a dit, gagne en épaisseur.
Les Allemands et ceux qui les aidaient appelaient les résistants des terroristes, en vérité, Dominique Lormier.
Absolument. Mais néanmoins, il faut savoir que la résistance a été quand même très efficace au niveau des réseaux de renseignements. Il faut savoir que ce sont les informations qui ont été transmises par le colonel Rémy et son réseau de la confrérie Notre-Dame qui ont décidé, les Alliés, à débarquer en Normandie. Et également, sur les différents aspects de la résistance, il y a eu effectivement des groupes étrangers à travers Manoukian, également des résistants républicains espagnols dans la région de Toulouse, des antifascistes italiens également dans le sud-ouest, et également une résistance qui montait en importance à travers notamment 150 000 membres rattachés à des réseaux en tant que membre, je dirais, actif, 300 000 membres occasionnels et 300 000 FFI au moment des combats de la libération, à peu près un demi-million de personnes, d'après ce que disait le colonel Rémy. Donc c'est une résistance qui a quand même pris une certaine ampleur.
Massive sur les derniers mois, évidemment, avec deux principaux objectifs, le renseignement au profit des alliés, bien entendu, et ça, c'est un aspect qu'on a tendance parfois à négliger, qui est tout à fait fondamental, parce que personne n'est mieux placé que les gens sur place, bien entendu, pour donner un certain nombre de renseignements, et puis le sabotage qui va prendre toute son importance à partir des débarquements de Normandie.
Il y a eu deux aspects vraiment importants, je dirais, au sein de cette résistance, au niveau de l'efficacité. Ça a été les réseaux de renseignement. D'ailleurs, ça a été reconnu par Eisenhower et également Churchill, qui ont reconnu que les renseignements transmis par le réseau Century et la confrérie de Notre-Dame avaient décidé le choix du débarquement en Normandie. Et également, il y a eu les opérations de sabotage au moment des 40 48 heures qui ont été décisives au moment de la constitution de la tête de pont en Normandie et qui ont permis de retarder de nombreuses unités allemandes, et c'est ce qui a permis véritablement le succès des alliés, avec également aussi bien sûr l'action massive menée par l'aviation.
La répression devient de plus en plus extrême, on peut dire, hein, du côté allemand, bien sûr.
Oui, alors il faut bien dire que les Allemands n'ont pas très peur de la résistance, c'est-à-dire que jamais la résistance n'a été considérée comme un danger majeur par les Allemands, et que malgré l'insécurité qui pouvait régner, un soldat allemand préférait toujours être muté en France qu'aller combattre sur le front de l'Est.
Bien. Il y avait des partisans là-bas qui étaient plus nombreux et plus durs parfois.
Et plus durs, bien. En revanche, il est vrai que les services allemands, l'Abwehr et la Gestapo, ont mené une répression extrêmement féroce, et que cette répression, vous avez raison de le souligner, s'est radicalisée en 1944, tout simplement parce que les Allemands pressentent l'imminence du débarquement et qu'ils ne veulent en aucun cas, au fond, être perturbés, notamment sur leur ligne de communication, par la résistance intérieure. Et donc vous avez de très grandes opérations qui sont menées, par exemple dans le Jura, avec ce qu'on appelle les Pâques rouges, par la suite, au moment du débarquement, et qui vont véritablement ensanglanter la France, avec un bilan très lourd, puisque vous avez quand même plus de 88 000 personnes qui seront déportées. Alors, pas toutes ne sont résistantes, vous avez des droits communs, mais une partie sera déportée, je parle ici de la déportation non raciale, de la déportation dite de répression, que vous allez avoir 4 000 personnes qui sont fusillées, toutes ici encore ne sont pas résistantes, vous avez des otages, et que vous avez en gros 15 000 personnes qui meurent dans les combats.
Est-ce que ce phénomène qu'on a appelé celui des résistants de la dernière heure mérite d'être agrégé au phénomène de la résistance lui-même ?
Personnellement, je le crois. Alors, beaucoup de résistants ont très mal vécu l'afflux de volontaires en 1944, mais je crois qu'il faut bien se rappeler que beaucoup de Français doutent encore en 1942 ou en 1943 de l'utilité de la résistance. À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est donc pour cela aussi que cette minorité agissante mérite le respect, puisque justement, ils s'engagent, alors même qu'ils peuvent éventuellement douter de l'efficacité de leur action. Mais à partir du moment où les alliés débarquent, la donne change. C'est-à-dire que le fait, par exemple, d'assassiner un soldat allemand isolé en 1940 ou 1941, bien, les résistants se doutaient bien que ça ne changerait pas la face de la guerre. Mais à partir du moment où les alliés débarquent, oui, la guerre peut changer, parce que tout Allemand mort ou prisonnier, eh bien, est un Allemand de moins qui combat contre les forces alliées. Donc il y a eu beaucoup d'ironie sur ce qu'on appelle les résistants de septembre, hein, les RDS. Mais je crois qu'il faut rappeler deux choses. D'une part, c'est le moment où beaucoup de Français pensent que la résistance est efficace, et que d'autre part, jamais le tribut acquitté par la résistance n'a été aussi lourd qu'en 1944. C'est-à-dire que les risques étaient aussi considérables.
C'est pas parce qu'on s'engageait tard qu'on ne risquait rien. Au contraire. C'est bien de toujours le
rappeler. Il y a eu notamment beaucoup de résistants qui ont rejoint l'armée de l'âtre, hein, près de 140 000.
Dominique Lormier.
Et il y a eu également aussi les combats menés par les maquis, notamment sur les poches de l'Atlantique, où les Allemands ont résisté jusqu'au mois d'avril ou mai 1945, où les les gros bataillons des troupes françaises qui ont été engagées étaient issus de également des forces françaises de l'intérieur.
Alors il nous reste très peu de temps, mais j'aurais juste aimé qu'on évoque d'un mot, Dominique Lormier, ce que vont devenir tous ces résistants, parce que le phénomène de la résistance ne s'arrête pas à 1945, hein, ça continue ensuite jusque dans les années 1970, presque jusqu'au début des années 80, des solidarités à vie se sont créées et ça va structurer en profondeur la société française en général et la classe politique en particulier.
Tout à fait, ben là, je peux en parler en connaissance de cause, hein, étant bordelais, parce que j'ai bien connu Jacques Chaban-Delmas, voilà, et qui est l'exemple vivant, je dirais, d'un homme, un résistant de la première heure, parce qu'il s'était engagé dès novembre au sein du réseau Heurto, dès novembre 1940 dans la résistance, et qui a fait ensuite la carrière politique que l'on sait. Il y a eu également d'autres grandes personnalités au sein même de la France libre, avec Pierre Messmer, et ainsi de suite. On le voit à travers également aussi mon livre « La résistance pour les nuls », qui vient de sortir aux éditions First. Donc on voit, je dirais, les différentes grandes figures de la résistance à travers cet ouvrage.
Eh bien oui, je l'ai là dans les mains, « La résistance pour les nuls », avec tous les aspects. C'est une fois de plus une synthèse, comme on fait chez First, hein,
absolument.
Une sorte de présentation générale de la résistance, c'est sous votre direction, c'est de vous d'ailleurs même, pardon,
oui,
c'est
oui,
chez
oui,
First,
oui.
Et puis aussi de Dominique Lormier, « Histoires extraordinaires de la résistance française » au Cherche Midi, et puis « L'histoire de la résistance 1940-1945 » chez Perrin d'Olivier Vieviorca. Merci beaucoup, j'ai bien conscience de n'avoir fait que survoler un immense sujet, mais c'était aussi un peu le but de cette émission, donner un certain nombre de pistes à tous ceux qui voudraient approfondir maintenant cet immense et inépuisable sujet.